Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021.
Congrès Mission 2021, table ronde.
Merci beaucoup d'être présent donc pour cette table ronde ce matin sur le thème écologie. L'écologie a une formidable occasion d'évangélisation. Point d'interrogation. On va commencer par accueillir nos invités. Alors nos invités, honneur aux dames. Il y a autour du plateau, ai-je envie de dire, donc Sœur Anne. Bonjour. Vous êtes religieuse comme...
De parler doucement.
Lentement. D'accord. Pour un journaliste radio, ça va être compliqué, mais je vais faire ce que je peux. Sœur Anne, vous êtes donc religieuse cistercienne à l'abbaye Sainte-Marie de Boulors, située dans le Gers. Vous avez 40 ans et vous êtes ici, entre autres, parce que votre abbaye est assez engagée dans un projet d'écologie intégrale. Vous êtes responsable du projet Grange 21. À ma gauche se trouve Emmanuel Birloez. Emmanuel Birloez a 37 ans, il est marié, père de famille. Aujourd'hui, il est artisan paysan, éleveur d'alpagas, en couple et en famille, aime-t-il à préciser. Il a une formation d'ingénieur et il a été avant, entre autres, chef d'entreprise. Et je vous dis bonjour. Édouard Duriez, bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez enlever votre masque si vous voulez. Édouard Duriez, donc, a 26 ans, c'est bien ça ?
28.
28, pardon, j'ai du mal à me relire dans mes notes. Vous êtes diplômé d'une grande école d'ingénieurs, vous êtes actuellement en thèse sur un sujet, l'éco-conception des matériaux en architecturaux. Vous êtes par ailleurs responsable avec votre épouse et une troisième personne de la commission écologie pour la sauvegarde de la création pour le diocèse de Toulouse. Alors ensemble, on va parler de ce sujet. C'est un vaste sujet, c'est un sujet parfois clivant chez les chrétiens, on en a bien conscience. Ce qu'on vous propose, c'est de fonctionner de la manière suivante. On va reprendre un peu la pédagogie du pape François, la pédagogie ignatienne, qui prend entre autres dans son livre « Un temps pour changer ». On va commencer par voir, après voir ce que chacun, voir la crise écologique, voir ce que chacun choisit comme option missionnaire, dans sa vie, dans son quotidien, et puis essayer de voir tous ensemble comment on peut essayer d'agir. Alors je me disais en introduction, tout simplement, le mieux est peut-être de citer le pape François dans son encyclique sociale que vous avez certainement lu, donc Laudato Si, qui est sorti en 2015. Je vous citerai juste deux passages qui sont évidemment pas exhaustifs. Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l'univers. Ou alors cette autre phrase qu'on a pas mal entendue, « Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, les montagnes, tout est caresse de Dieu. » Et puis, peut-être un autre passage aussi, « Les prévisions catastrophiques ne peuvent plus être considérées avec mépris ni ironie. » Nos styles de vie sont insoutenables et peuvent nous conduire à des catastrophes. Alors, c'est ce qu'on a un peu choisi au début de cette table ronde, au risque peut-être d'en énerver certains ou d'en secouer. C'est ensemble de se redire quelle est la situation. Voilà, on va, rassurez-vous, pas y passer l'essentiel de la table ronde. Mais si le pape François nous dit qu'il faut changer de paradigme et qu'il faut qu'on vive une conversion, c'est bien qu'il y a un souci. Alors, tout simplement, c'est peut-être un travers journalistique. On va commencer par l'actualité. L'actualité, ce n'est pas seulement toutes les catastrophes climatiques de cet été. On pourrait en citer certaines, comme le fait qu'il a plu pour la première fois au Groenland. Mais c'est le dernier rapport du GIEC qui est en cours de publication en vue de la prochaine COP26 à Glasgow, début novembre. Je vais donner la parole un petit peu à Édouard Duriez. Je peux juste préciser que c'est le sixième donc, rapport. Il y en a trois en général. Le premier, c'est le constat. Il y a un premier chiffre qu'on a entendu, qu'on a pu lire, c'est que les fameuses plus 1,5 degrés de réchauffement à l'échelle de la planète, Édouard Duriez, ce n'est pas pour 2050, maintenant c'est pour 2034. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être ce que vous avez retenu des principales conclusions qui plaident en faveur d'une situation problématique, voire catastrophique, comme dit le pape François?
Oui, alors effectivement, cette histoire que les 1,5 degrés seront atteints plus tôt, c'est quelque chose qui revient un peu à plusieurs endroits dans ce rapport du GIEC, qui est que le réchauffement climatique s'accélère, s'intensifie, et donc en fait, on est dans une phase où les choses vont de plus en plus vite, actuellement, malgré les accords de Paris, malgré tout ce qui est fait, on a un réchauffement qui s'accélère. Par exemple, la glace du Groenland a fondu 6 fois plus vite pendant cette décennie que pendant la décennie précédente. Et en fait, chacune des 4 dernières décennies a été la décennie la plus chaude depuis qu'on mesure des températures. Et donc, chacune a constitué un nouveau record. Donc depuis 40 ans.
Donc ça, c'est peut-être un premier élément. Si vous en avez retenu d'autres, lesquels vous citeriez?
Oui, alors dans ce rapport, une autre chose qui vient, c'est qu'on a plus de données. Donc le dernier rapport datait d'il y a 10 ans, ce qui fait que les conclusions sont plus consolidées, si on veut. On a plus d'éléments. Et donc, dans le dernier rapport, par exemple, il disait qu'il n'y avait presque aucun doute du fait que l'activité humaine était à l'origine de ce réchauffement. Donc ça, c'était dans le rapport numéro 5, il y a 10 ans. Dans celui qui vient de sortir, c'est plus discutable comme fait. Toutes les recherches le montrent.
Voilà. Alors, on pourrait dire bien d'autres choses, hein. Peut-être que ça reviendra au cours de la conversation. Je citerai juste, à propos du Groenland, je vous l'ai dit... Parmi, si on récapitule un petit peu ce qui s'est passé cet été, un dôme de chaleur au Canada et aux États-Unis d'environ 50 degrés ou presque, une famine à Madagascar, provoquée entre autres indirectement par le réchauffement climatique, et des déluges, que ce soit en Inde, au Japon, ou plus proche de nous, en Allemagne ou en Belgique. Et grosso modo, tout le monde plus ou moins s'accorde à dire que tout ça est la conséquence du réchauffement. Et on pourrait détailler. Alors, il y a souvent une question chez les chrétiens qui titille. Alors, une fois de plus, ce n'est pas d'abord l'objet de la table ronde, mais quand même, pour bien agir, il faut savoir regarder la réalité les yeux dans les yeux. C'est cette question des causes du réchauffement. Alors, Édouard Duriez, quand on lit le pape François, je ne retrouve plus le passage, évidemment, pourtant je l'avais bien sélectionné, il laisse entendre que, de fait, c'est dû d'abord au CO2, au méthane. On peut se dire que le pape François est bien informé. Il a quand même l'Académie pontificale des sciences avec lui, avec un certain nombre de prix Nobel. Quid de cette première cause du CO2 sur lesquelles un certain nombre d'entre nous, parfois, on accroche ou on s'interroge?
Alors, sur cette question, il y a vraiment un consensus parmi les climatologues pour dire que ce réchauffement est dû au CO2. Vous allez avoir éventuellement quelques scientifiques dans d'autres domaines qui pourront être présents dans les médias pour dire d'autres choses, mais parmi les climatologues, il y a vraiment un consensus sur ce point. Et en fait, d'où ça vient? Si on modélise simplement la variabilité du climat due à la variabilité solaire, aux éruptions volcaniques, à d'autres facteurs naturels, donc on obtient une courbe des températures au cours du temps, et en fait, elle ne colle pas du tout à la courbe qui est mesurée. Et si on prend en compte le pouvoir de réchauffement du CO2 et des autres gaz à effet de serre, bien sûr. Donc la modélisation, cette fois, colle parfaitement au cours de température. Donc on voit qu'il y a, y a un consensus vraiment parmi l'ensemble des climatologues sur ce point. Une façon de se l'imaginer, c'est de voir que il y a 60 millions d'années. Dans les périodes avant, c'est à ce moment-là que le charbon s'est créé à partir d'arbres. Et en fait, comment ça s'est fait? Donc les arbres ont absorbé le CO2 qu'il y avait dans l'atmosphère, sont rentrés dans les couches de la Terre et sont transformés en charbon. On peut bien comprendre que si on rebrûle ce charbon derrière, ou le pétrole ou d'autres sources d'énergie fossile, en fait, on va réémettre ce CO2 qui avait été absorbé à l'époque. Et donc il faut savoir qu'à l'époque, la concentration de CO2 était de 1000 parties par million. Au début des mesures, quand on a commencé il y a une centaine d'années, on était autour de 360, je crois. Et là, on est déjà à, à 410 actuellement. Et donc, on voit qu'on, voilà, qu'on est en route vers 6000. Et à l'époque, on avait 6000 parties par million. La température était de 12 degrés supérieure à ce qu'on a aujourd'hui.
Alors peut-être on peut essayer de faire atterrir cette réalité ou cette difficulté. Moi, il se trouve donc que je suis journaliste, pour ceux qui ne le savent pas. On a fait une émission donc, à Radio Présence, la radio pour laquelle je travaille, entre autres avec un rapporteur du GIEC, du 6e rapport, qui est toulousain. Et je lui posais la question, je lui disais, mais dans le sud-ouest, ça donne quoi le réchauffement climatique à horizon 2050-2100? Et la réponse a été immédiate. Il dit, le sud-ouest, dans 20-30 ans, ça ressemblera à l'Andalousie. Ça sera le climat. Est-ce que vous, Soran, peut-être à l'abbaye, puisque donc vous avez une abbaye, on y reviendra, où vous travaillez la terre, vous avez un élevage, vous avez des cultures, ce réchauffement climatique, vous le touchez déjà du doigt, ou pour l'instant, pour vous, c'est juste des chiffres?
Non, bien sûr, ça va le micro, là ce ne sont pas des chiffres, ce sont des réalités très quotidiennes, je pense, pour tous ceux qui travaillent la terre aujourd'hui. Il est de plus en plus difficile de cultiver nos terres pour des raisons météorologiques. Vous le voyez, même ceux qui sont en ville, on dit « il n'y a plus de saison, ma brave dame ». C'est pas faux et ça devient très compliqué là en ce moment, par exemple, pour toutes les moissons cette année. Avec la pluie qu'il y a eu en permanence, nous on a encore récolté le tournesol il y a deux jours. En allant à la coopérative, la sœur disait c'est une catastrophe dans les coopératives parce que tous les grains ont germé. Donc en fait, ils n'arrivent plus à stocker les grains. Voilà, puisqu'en fait, le réchauffement climatique, ça peut faire des étés très chauds, des étés moins chauds comme celui qu'on a eu cette année, ici. Pas ailleurs dans le monde, mais aussi ça dérègle en fait après tout le cycle de l'eau. Donc ça devient très très compliqué en termes d'hygrométrie. On n'a plus les pluies au moment où il faut et on a des pluies au moment où il ne faut pas. Donc on n'arrive plus à cultiver correctement nos terres. C'est un vrai danger sur l'alimentation humaine à court terme, puisque notre métier c'est quand même de nourrir les hommes et les femmes aussi, au-delà de simplement notre communauté, bien sûr. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'alimentation derrière, et puis bien sûr un enjeu autour de la problématique de l'eau, qui me semble être une problématique très très largement sous-estimée et pour laquelle nous avons tous certainement un gros travail de conversion à faire. L'eau est un trésor de plus en plus précieux. Et nous, on le voit même avec les personnes qui viennent à l'hôtellerie chez nous. Parfois, ils nous expliquent qu'ils ont pris une douche le matin et une douche le soir parce qu'il faisait chaud. Nous, on leur dit, mais stop. D'abord, nous, notre station d'assainissement, elle ne peut pas gérer ça. Donc, c'est assez absurde. Et puis, on n'a pas d'eau en ce moment, on n'a pas d'eau. Donc là, on rationne le jardin. Donc, voilà. Donc je pense qu'en fait, il y a vraiment des choses qui sont très concrètes et qui vont avoir des répercussions à très brève échéance, puisqu'on le voit sur les cours des céréales et toutes ces problématiques, il y a une réalité qui est vraiment critique.
Alors, on pourrait dire plein d'autres choses. Peut-être on va avancer dans la conversation. J'ai conscience, je le dis en fait quelque part pas seulement par précaution oratoire mais par délicatesse à l'égard peut-être des personnes qui sont présentes ici et puis des auditeurs puisque la conférence sera retransmise. On sait aussi que quand on parle de l'écologie, il y a aussi des a priori parce qu'on a l'impression que l'Église cautionne tout ce qu'il y a derrière le monde écologique. On peut en citer la deep ecology, le retour d'un certain animisme, l'antispécisme, un certain malthusianisme, bref. On y reviendra peut-être dans la conversation. Je voulais juste rappeler, avant de faire circuler davantage la parole, une chose aussi, c'est que la principale intention de cette table ronde, comme toutes les tables rondes, c'est d'essayer de parler des périphéries que le pape François nous invite non seulement à rencontrer, mais qui nous invite à rentrer en amitié. Cette périphérie, c'est tous les gens qui sont engagés dans le monde écologique, et on va peut-être commencer par essayer de leur donner un visage, un nom, parce que tous, on n'en connaît pas forcément. Parfois, on est peut-être un petit peu trop dans nos milieux. Alors, je vais vous passer la parole, Emmanuel Birloise. Vous nous parlerez davantage de votre vie aujourd'hui. Vous avez fait en famille un choix assez radical, il y a maintenant quelques années, puisque vous habitez dans un éco-hameau, en Haute-Garonne, c'est bien ça, mais non loin du Gers. là où est Soran. Donc ce sont, on va dire, quelques dizaines de familles, parents, enfants ou parfois célibataires, qui vivent dans un écolieu, une forme de décroissance assez radicale. Et vous, ça s'est traduit professionnellement puisque vous avez passé de chef d'entreprise à éleveur d'alpaga. Si vous deviez nous commencer juste par nous parler d'une ou deux personnes que vous avez découvertes dans cet écolieu, qui sont des belles personnes et avec qui vous avez commencé à rentrer un peu en amitié, de façon à ce qu'au début de cette table ronde, on ait des visages.
Ok. Est-ce que vous m'entendez là ?
Oui, c'est bon.
Alors, il y a toutes sortes de personnes, en fait. Dans cet éco-village, on est 50 sur 50 hectares, la moitié de petites personnes et l'autre de grandes personnes. Et effectivement, les origines sociales, les histoires de vie sont extrêmement diverses pour arriver à cet endroit où, en fait, on s'est retrouvé autour de valeurs communes, autour notamment de l'écologie, mais l'écologie intégrale, je pense que, même si effectivement, on est assez... On est assez seul comme chrétien, catholique, pour le moment, dans cet écosystème. Il n'empêche qu'en fait, moi, je constate qu'au quotidien, toutes les valeurs que je lis, que je vis au quotidien en tant que chrétien, sont partagées, avec des nuances, évidemment, et qu'on peut discuter. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des personnes comme moi, c'est-à-dire des enfants de CSP+, qui ont fait des études et qui, à un moment donné, ont voulu mettre en accord leurs idéaux et leurs actes. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas forcément fait d'études, qui ont eu un parcours de vie parfois un peu chaotique, ou pas d'ailleurs, hein. Rentrons pas dans les clichés, mais en tout cas qui sont arrivés et avec qui on dialogue, avec qui on vit au quotidien, dans une gouvernance où en fait on essaye de pas vivre de forme de domination, et donc on est en gouvernance partagée au consentement, et donc il y a un challenge de choc de culture.
Juste, Emmanuel, peut-être vous nous réexpliquerez davantage, mais si oui. Vous aviez juste un ou deux visages ou personnes,
okay.
qu'on entrevoie qui sont ces gens-là dont on va essayer de parler aussi ce matin en premier.
Oui, eh bien... Je ne sais pas, par exemple, un couple qui est franco-suédois, qui a arrêté assez vite ses études et qui sont engagés en Suède à fonder une ferme en traction animale pendant 10 ans. Ils sont arrivés chez nous ensuite pour être dans une deuxième étape de vie où ils se sont rendus compte qu'ils avaient poussé très très loin la décroissance, la cohérence, le bilan carbone et quelque part ils avaient besoin de se rééquilibrer. Voilà, en allant un peu moins fort là-dedans et en s'équilibrant humainement notamment. Donc ça, c'est, moi, ça m'a beaucoup appris. Un autre exemple, c'est un gars de mon âge qui n'est jamais allé à l'école par choix et qui est pourtant une bibliothèque ambulante, qui est un passionné d'arbres et qui plante des arbres partout, qui les greffe et qui est très, très intéressant sur ce point de vue-là.
On y reviendra et puis vous nous parlerez davantage d'eux. On va mettre un tout petit peu les pieds dans le plat maintenant, parce que derrière cette table ronde, donc une formidable occasion d'évangélisation, on en a convenu tous les trois quand on a préparé la table ronde, on s'est dit on pourrait très bien renverser la vapeur et dire c'est une formidable occasion d'évangélisation d'abord des chrétiens. Parce qu'il faut être honnête, tous les gens qui s'y intéressent un petit peu à ce sujet s'entendent pour dire que les chrétiens aujourd'hui, en tout cas en France, sont pas en pointe sur le sujet et que le monde d'après... c'est d'abord le fait de gens qui ne sont pas chrétiens. Alors, on est là pour faire le procès de personne, mais Soran, vous, à l'abbaye, il y a des gens très différents qui viennent. Est-ce que ça fait écho chez vous, cette petite pique de milieu d'émission, ou de milieu de table ronde ?
Alors, sur cette question, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, parce que j'ai envie de dire, les premières à convertir, en l'occurrence, ça va être d'abord les moniales de la communauté. Donc là, j'évoquais les douches de nos hôtes tout à l'heure, mais je pourrais évoquer des incohérences qui sont spécifiques à notre communauté aussi. Il y a des choses qui sont toujours perfectibles, même si certainement, par j'ai envie de dire tout simplement le vœu de pauvreté, une communauté monastique vit une certaine sobriété. Qui peut-être est déjà un point positif. Mais j'ai envie de dire de manière un petit peu plus globale, moi, ce qui me frappe sur cette question et ce qui m'a intéressée dans la formulation de la question, c'est que je trouve que souvent, nous avons une manière d'aborder l'écologie qui est un peu une liste de petits trucs qui nous donnent bonne conscience. Voilà, j'ai fait du covoiturage pour aller à la messe, c'est bon, je suis une bonne écologiste. Voilà. Je trouve qu'en fait, derrière, il y a vraiment tout un rapport beaucoup plus fondamental à nous-mêmes, à l'autre, au don que Dieu nous fait à travers le créé et à la vie de manière générale. C'est ce qui m'a le plus touché dans l'encyclique du pape, c'est qu'en fait, quand il parle d'écologie intégrale, il nous renvoie très très loin dans ses cohérences ou ses incohérences, y compris dans des aspects qui vont être des aspects éthiques de relations entre nous, éthiques dans le rapport à la vie et dans les choix liés à la vie, et qui vont avoir des répercussions extrêmement concrètes sur le quotidien ensuite. Mais je pense que l'intérêt, et nous c'est un petit peu ça que nous essayons de vivre avec les personnes qui viennent nous voir à l'abbaye, c'est de ne pas faire une liste de choses à faire pour voilà, avoir bien changé toutes ces ampoules pour être passé en LED. C'est bien, on aura une bonne note à la fin de l'année, mais très concrètement, c'est pas ça que le Seigneur attend de nous pour dire oui, tu as pris soin de tes frères en humanité et de notre maison commune.
Alors, je vous redonne un tout petit peu la parole. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce projet dans lequel est engagée la communauté, donc qui s'appelle Grange 21. Après, je vous oublie pas, hein, Edouard, hein, rassurez-vous. J'essaierai d'honorer chacun. Mais voilà, votre projet a fait beaucoup parler, enfin a eu beaucoup d'écho. Hein, vous avez eu un nombre de, on va dire, de médias qui se sont rendus à l'abbaye assez impressionnant. Si vous deviez nous présenter rapidement Grange 21. Qu'est-ce que c'est et en quoi c'est un projet d'écologie intégrale, Sorane ?
Alors donc, le projet Grange 21, c'est d'abord un projet de restructuration de notre activité économique et de notre exploitation agricole. L'idée était de dire, quand on regarde historiquement les granges cisterciennes depuis le XIIe siècle, elles ont eu trois caractéristiques. La première, c'est qu'elles ont été à la pointe sur le plan de l'agriculture. La deuxième, c'est qu'elles ont permis le développement économique des territoires dans lesquels elles se trouvaient. Et la troisième caractéristique, c'est qu'elles ont permis l'enracinement de la culture et de l'évangile en Europe. Et nous nous sommes dit, eh bien, nous sommes une communauté cistercienne dont les racines sont du XIIe siècle, mais qui vit au XXIe siècle de cette même sève. Comment est-ce que nous pourrions bâtir aujourd'hui une grange cistercienne qui reprenne ses caractéristiques à l'abbaye de Boulor et de notre temps. Donc, si vous le comprenez tout de suite, rien qu'avec ces trois critères, ces trois clés, on est vraiment dans une logique d'écologie intégrale, puisque ça va consister à la fois dans un rapport particulier au vivant et à notre travail agricole, ensuite notre implication économique et territoriale, et enfin la dimension missionnaire de notre communauté. Aujourd'hui, nous avons à peu près terminé la première phase de travaux qui consistait à la construction des bâtiments agricoles. Une phase de travaux sur le plan... je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Vous trouverez tout ce que vous voulez sur Instagram, Facebook, notre site Internet. Sur tout, voilà, on a été largement médiatisés. Juste un focus peut-être sur une dimension missionnaire, puisque c'est quand même le thème de ces journées. Une expérience très belle que nous avons faite, ça a été de faire des chantiers participatifs. Nous avons utilisé une partie de la terre du terrassement pour construire des briques, pour construire certains éléments des bâtiments. Et pour ça, nous avons fait appel à plus de 500 bénévoles qui se sont succédés et qui sont venus nous aider à fabriquer ces briques d'abord et maintenant à bâtir ces murs. Une occasion assez exceptionnelle de rencontre, de partage avec des personnes qui étaient pour certains assez sensibles à l'écologie, aux matériaux de la terre et d'autres matériaux de construction écologique, et donc des occasions d'échange et de dialogue qui ont été magnifiques. Maintenant, nous entrons dans la deuxième phase de ces travaux qui va être la construction d'un point de vente de nos produits et puis d'un espace d'accueil. Donc là, je voudrais juste vous partager brièvement, pour ne pas accaparer la parole trop longtemps, mais vous parler d'une notion qui me semble intéressante et qui peut être inspirante.
L'écotone.
L'écotone.
Je vous arrête, on y reviendra après.
Ouais. Très bien.
Je vais passer la parole un petit peu à Edouard. Alors Edouard, si on revient sur cette question qui doit être, on va dire, évangélisé ou qui doit être converti dans l'affaire. Vous, votre travail, vous m'aviez expliqué avec votre épouse et puis l'autre responsable de la commission pour la sauvegarde de la création pour le diocèse de Toulouse, c'est d'abord de prier pour cette conversion, pour la conversion des chrétiens dans le diocèse, vous m'aviez dit ça. Après, c'est aussi d'aller rencontrer les prêtres, les fidèles, et puis d'en parler, de faire de la vulgarisation, de la sensibilisation. Comment vous êtes reçu, honnêtement? Bon, alors c'est vrai que vous êtes chez vous, donc vous ne pouvez peut-être pas dire les choses exactement comme elles sont, mais si vous deviez nous partager, c'est qu'il y a quoi? Des réticences, des interrogations, des peurs?
Non, de façon générale, on est plutôt bien reçu. On a été dans plusieurs paroisses, on a été à différents conseils du diocèse, devant les prêtres. Alors, de façon générale, on est plutôt bien reçu. En fait, le cœur de notre message, c'est que le pape parle de conversion écologique. Donc, c'est pas une conversion à l'écologie, c'est une conversion écologique au Christ. Et en fait, on se rend compte que en essayant de vivre de l'écologie intégrale, eh bien, on va petit à petit se conformer au Christ et développer ces vertus qui nous rendent plus chrétiens, plus proches du Christ, et donc plus saints, tout simplement.
Vous pouvez prendre quelques exemples, peut-être, dans ces cas-là ou...
Oui, donc l'écologie intégrale, pour revenir dessus, c'est, on peut dire, prendre soin des relations qu'on a avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes, et puis bien sûr avec la création. Et donc, ça va passer, par exemple, c'est ce que disait Sarah Anne, quand elle parlait de pauvreté et de sobriété. Donc c'est des vertus qu'on va développer, et en fait le Christ était pauvre, donc on va se conformer à sa vie. Donc ça c'est d'un point de vue matériel, et puis il y a aussi une pauvreté de cœur qu'on va développer. En fait, on se rend compte, c'est une sorte d'humilité, que on ne peut pas la crise climatique dont on parlait au début, l'homme ne peut pas la résoudre seul, on ne peut pas se sauver soi-même. Et donc, on se rend compte qu'on a besoin de Dieu, qu'on a cette forme d'impuissance, de faiblesse, et Dieu rentre dans notre faiblesse, et c'est comme ça qu'il nous rejoint. Donc en fait, l'écologie intégrale est vraiment source de conversion au Christ.
Voilà, et puis on aurait pu citer peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le pape a donc bien rappelé que c'était une encyclique sociale. Et quand on dit que tout est lié, c'est aussi que tout est lié parce que tout ça est d'abord au service des plus pauvres et dans une attention aux plus pauvres. Emmanuel Birloise, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus votre aventure avec deux questions en un, on va dire, c'est nous dire un peu ce que vous vivez aujourd'hui, quel est votre métier, votre quotidien, et puis qu'est-ce qui a changé en vous? Vous êtes quoi, plus émerveillé? Vous avez une vie sobre, c'est pas non plus tous les jours facile. Hein. Je sais que chez vous, l'hiver, il fait 4 degrés dans la tente, puisque vous habitez sous une yourte quand vous vous levez. Racontez-nous un peu votre quotidien, et puis ce que ça fait avec, si vous regardez un peu dans le rétroviseur, qu'est-ce qui a changé? Quel fruit?
Alors déjà, pour rebondir là, sur cette dernière chose, nous, on n'a vraiment pas l'impression de manquer de confort. Hein. Il fait pas 4 degrés, il a déjà fait 7. Mais en réalité, c'est vraiment pas un sujet. Ça peut paraître ça quand on n'a pas passé le pas, mais en fait, tout ça est au milieu d'habitudes qui sont totalement différentes. Et donc, du coup, on s'y adapte vraiment facilement. Aussi parce qu'on bénéficie d'énormément d'autres conforts que ceux qu'on avait précédemment dans notre vie. D'où on vient, bon, on avait une vie tout à fait classique. On est arrivé dans cet éco-village, non pas en premier lieu, dans une recherche de cohérence écologique. C'était vraiment secondaire. C'était plus dans une organisation de vie et autour de la scolarisation de nos enfants, dont on a voulu faire la scolarité à la maison. Et donc, on cherchait un contexte de disponibilité et d'environnement propice. Et c'est ensuite qu'on s'est converti écologiquement. Et de cette conversion écologique, on s'est converti plein de choses, mais notamment la lecture de Laudato si. En fait, on s'est rendu compte, personnellement, puisque Béa était chrétienne pratiquante, mais En fait, qu'on faisait la même chose, que ce pourquoi on était là et les valeurs auxquelles on tenait en vivant comme on le faisait, finalement, étaient très proches de ce que le Christ nous invite à faire. Et par contre, ce qui nous manquait, c'était l'espérance de en fait, pourquoi on le fait et que va advenir de l'humanité. Et c'est là qu'effectivement, on a trouvé, en tout cas moi personnellement, un message d'espoir. Et voilà.
À quoi ça ressemble un peu votre quotidien donc
Notre quotidien, c'est que bon, donc on est éleveur, on a une trentaine d'alpagas, on essaye de vivre de notre activité. On a la chance, par le passé, d'avoir eu de l'argent et donc d'avoir pu acheter un appartement qui nous donne une source de revenus qui est l'équivalent d'un RSA pour en fait faire la transition de créer notre activité qui est créée depuis 3 ans où en fait on fait tout depuis la naissance de l'animal jusqu'au produit fini en reprenant évidemment tout manuellement donc avec un bilan carbone quasiment de zéro quoi. Et puis à côté de ça, pour pouvoir en vivre effectivement, au quotidien on produit nos légumes, nos fruits, notre sucre avec le miel, alors évidemment pas tout à 100% encore aujourd'hui, mais voilà, on essaye d'être au maximum dans l'autonomie, d'essayer d'éviter d'avoir à dépenser de l'argent qu'on devra gagner par ailleurs, et donc travailler plus dans notre activité d'artisanat sur lequel effectivement la rentabilité est très très faible, on est à peu près à la moitié du SMIC, voilà.
Voilà, vous avez l'habitude de dire que vous vivez avec 300 euros par personne.
Par personne, voilà.
On peut dire aussi que c'est un lieu donc, qui a été acheté. Il est dans une forme de copropriété. On ne va peut-être pas s'étendre, mais je voulais le préciser.
Oui.
Acheté aussi grâce à des donateurs. Et du coup, vous avez un loyer très faible. Mais bon, on n'est pas là pour faire forcément votre modèle économique. Ce que je voulais juste peut-être, c'est... Si on doit continuer, on va dire, sur la fine pointe de l'émission... Enfin, pardon, excusez-moi. Pardon, de la table ronde. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une attente spirituelle et à quoi elle ressemble chez tous les gens que vous fréquentez dans cet écolieu ? Voilà, il est temps de parler d'eux. On a l'habitude, quand on n'en connaît pas personnellement, c'est peut-être le cas de certains ici, hein, on a parfois des idées ou des représentations. On se dit que c'est une recherche spirituelle qui est un peu New Age, qui a une forme de retour à l'animisme, une espèce de sacralisation des peuples premiers qu'ils appellent aussi les peuples racines, et que souvent que le christianisme est vu en fait comme une civilisation, comme la cause, une des causes peut-être de la crise écologique actuelle. Alors est-ce que c'est un peu la température dans l'écolieu ou pas ?
Oui, bah clairement. Clairement, c'est la température. Bien qu'effectivement, nous voyant chrétiens, et on n'est pas les seuls témoins de ça dans l'entourage du collectif, ça interroge, clairement, ça interroge parce que c'est pas spontané, c'est pas moderne, on va dire. Mais moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est de voir à quel point la spiritualité est intense, en fait, parmi les personnes qui vivent sobrement. Et finalement, ça m'a paru une évidence. Plus on vit sobrement, plus on accepte la vulnérabilité, et donc l'humilité qui est nécessaire à accepter un plus grand que soi. Et ensuite, ben voilà, nous, notre chemin, c'est de partager en respect, parce qu'on n'a pas envie non plus d'être pas respecté dans notre foi, d'essayer de cheminer ensemble pour trouver les lieux communs. Et on l'espère, parce que nous on y croit très fort, à pouvoir les emmener un jour dans notre sillage, on va dire.
Est-ce que le dialogue est facile sur les sujets spirituels, la spiritualité avec vous, ou est-ce que vous êtes obligé de la jouer low profile ? Est-ce qu'on peut avoir, on va dire, des dialogues authentiques avec ces personnes ?
Oui, en fait, il faut d'abord déconstruire les effets repoussoirs de la religion catholique, parce qu'on nous oppose toujours son histoire passée et récente comme quelque chose, comme une frontière en fait. Et disons que peut-être moi j'arrive à témoigner de ça parce que je me suis converti récemment et que j'avais exactement ces mêmes réflexes. Et que moi, je me suis converti parce que je me suis laissé toucher, parce que justement, je me suis dit, bah, voilà, à un moment donné, si tu crois en la posture d'humilité, alors il faut commencer par toi et t'ouvrir complètement. Et sinon, tu ne te laisseras jamais toucher. Et donc, je crois que voilà, ce message passe. Et effectivement, on se rejoint parce que ils font la même chose que nous. Ils prient, ils appellent ça des méditations. Ils rendent grâce, ils appellent ça des gratitudes. En fait, beaucoup une question de vocabulaire dans notre pratique. Ensuite, c'est assez hétérogène et ils ne sont pas guidés comme on l'est dans notre pratique de la foi. Et c'est là où nous, on peut apporter beaucoup de choses, à mon avis.
Alors, on pourrait dire aussi peut-être qu'ils ne se tournent pas forcément vers quelqu'un ou vers le Christ. Mais bon, c'est peut-être un autre sujet, on y reviendra après. Édouard, vous aussi, dans votre travail à la commission sur l'écologie intégrale, vous allez rencontrer des scientifiques, voilà, des gens qui sont en dehors de l'Église, ça fait partie un peu de votre lettre de mission. Comment ça se passe, les rencontres? Est-ce que vous avez l'impression que c'est justement un lieu de fécondité mutuelle?
Oui, alors je partage le point de vue d'Emmanuel, qu'il y a une grande spiritualité dans le milieu écologique, dans le milieu alternatif, et une grande soif de sens. Je pense que un mode de vie écologique, effectivement, c'est un mode de vie où on va prendre le temps de se laisser toucher, on va être ouvert aussi. Et donc, je pense que c'est un milieu qui est assez réceptif au message de l'Évangile et qui n'attend que ça. Alors, effectivement, comme disait Emmanuel, faut pas commencer par les sujets qui braquent. En fait, on se base sur l'écologie. Le pape François a un discours qui porte beaucoup, très en dehors de l'Église, dans les périphéries, et c'est vraiment on peut s'appuyer dessus. Par exemple, Cyril Dion, qui est quelqu'un de très impliqué dans l'écologie, qui a notamment fait le film Demain pour ceux qui ont vu, et a été voir le pape récemment. Alors, il n'est pas chrétien, et enfin il y a différentes choses comme ça qui montrent que vraiment le message du pape porte, on peut s'appuyer dessus, et c'est un très bon moyen d'entrer dans la mission. Et après, une fois qu'on a parlé d'écologie, bah forcément, en tirant le fil, ce que je disais tout à l'heure, on retombe sur l'amour, sur Dieu, sur la sainteté, et en fait, en tirant le fil, on en arrive au kérigme, simplement en commençant à se retrouver sur l'écologie, et ce sera beaucoup plus facile que voilà, sur d'autres sujets où on ne se retrouve pas. Et peut-être ces sujets-là, une fois qu'il y aura eu conversion, avec le temps, ça viendra. Mais
Alors, Sœur Anne, parlez-nous de vos fameuses écotones. Qu'est-ce qu'un écotone, et pourquoi, à votre avis, c'est une réalité, justement, puisque c'est conversion écologique, c'est aussi le retour au réel, qui peut profondément nous parler, et en quoi ça se vit à Boulor?
Alors, un écotone, c'est dans la nature un lieu de rencontre entre deux écosystèmes. Donc, par exemple, ça va être les berges d'un lac ou la lisière d'une forêt. Vous voyez, vous avez l'écosystème de la forêt avec sa faune et sa végétation particulière. Et puis, vous avez les champs à côté et ce n'est pas les mêmes espèces animales, ce n'est pas les mêmes plantes qui vivent entre ces deux zones-là. Et comme pour les berges d'un lac, je trouve que c'est l'exemple le plus parlant parce qu'on voit tout de suite ce que ça représente comme zone spécifique. Vous avez un espace particulier, cette zone frontière, donc ces zones humides, qui vont permettre la vie d'une manière tout à fait exceptionnelle. Vous allez avoir des grenouilles, vous allez avoir des moustiques, vous allez avoir des papillons spécifiques, vous allez avoir voilà. Donc ce sont des zones qui ont besoin des deux écosystèmes pour pouvoir vivre, permettre à toute cette végétation et à tous ces animaux de vivre pleinement. Et ce sont des zones aussi qui déterminent le bon fonctionnement des deux écosystèmes respectifs qui se trouvent de part et d'autre. Alors pourquoi je vous fais cette petite leçon de choses ce matin? C'est parce qu'il me semble que c'est une notion qui est extrêmement intéressante dans notre approche missionnaire pour la rencontre entre deux écosystèmes, deux mondes, deux univers qui peuvent parfois avoir du mal à se croiser, à se retrouver. Donc nous, à Boulor, comme je vous le disais, donc là, nous attaquons la deuxième phase de nos travaux. Et ça va être la mise en place d'un écotone, vraiment. C'est comme ça qu'on va communiquer sur ce chantier. Là, on est en train de finir un petit film qui va sortir dans quelques jours, quelques semaines sur ça. Vraiment pour montrer que nous cherchons à construire, à établir, constituer une zone de rencontre entre l'écosystème de la vie monastique et le monde dans lequel vous vivez. Donc très concrètement, ça va passer par un lieu, puisque évidemment nous sommes tous incarnés, nous avons besoin de cet espace, mais aussi par des propositions de rencontres qui vont passer par notre corps, des rencontres expérientielles. Alors nous, on n'a pas voulu du tout que ce soit marqué par le numérique, donc ça va être des objets qu'on va pouvoir toucher, des choses qu'on va pouvoir pour se connaître et se rencontrer. Le pape François, vous le redisiez Emmanuel tout à l'heure, utilise la notion d'amitié, et je pense que c'est une notion absolument décisive dont vous devez faire l'expérience et enfin dont vous avez tous les deux témoigné d'ailleurs lorsque vous avez parlé de cet aspect missionnaire. Moi, je rejoins complètement ce qui a été dit sur la rencontre avec les personnes un peu en recherche. On voit aujourd'hui une soif spirituelle considérable dans notre société, une certaine réticence vis-à-vis de l'Église catholique, mais qui, par rapport en tout cas au milieu écologique, est assez facile à démonter, ne serait-ce que parce que ce sont des personnes qui ont une soif d'authenticité, et vous l'avez dit avec vos mots l'un comme l'autre. Donc en fait, une fois qu'on leur dit « mais attendez, votre idéal c'est une harmonie, c'est une paix, c'est une cohérence, commencez par me regarder selon votre idéal, moi j'essaye de le faire aussi, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir discuter. » Donc c'est assez simple.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple, un moment où l'écotone a fonctionné, et vous quand même qui êtes particulièrement au charbon pour la communauté, même si vous êtes cloîtré, vous les rencontrez, est-ce que vous avez une rencontre comme ça?
Bien sûr.
Vous avez l'impression que, entre guillemets, cette périphérie, ben, tout d'un coup, elle a eu un visage pour vous et puis elle vous a apporté, elle vous a interpellé.
Oui, alors je pense qu'elle a vraiment de multiples visages parce que les monastères aujourd'hui, c'est un peu, je pense, des phares dans la mer. Hein, une mer qui est assez agitée de nuit. Donc c'est vrai qu'on a énormément de personnes qui viennent. Parfois qui viennent complètement sur place, parfois qui viennent d'un peu loin, qui nous approchent. Moi en particulier, comme responsable de la communication, je vois aussi beaucoup, même par les réseaux sociaux, par des gens qui tournent autour.
Une personne peut-être.
Voilà, et une personne par exemple, je pense à Cécile, là, une jeune femme qui est venue il y a quelques semaines cet été là pour prendre un temps de retraite. Elle était vraiment en recherche spirituelle, en recherche de cohérence de vie, mais elle a pas rencontré le Christ. Quand elle est venue à Boulor, vraiment, elle avait toutes ses questions, toutes ses aspirations, comme on a tous rencontré des gens comme ça. Évidemment, c'est très exigeant ce genre de rencontre, puisque souvent on est face à des personnes, on l'évoquait tout à l'heure, hein, qui nous invitent à nous interroger sur notre propre cohérence de vie, qui vont nous pousser dans nos retranchements, parce que souvent eux font des choix plus courageux que nous sur leur propre mode de vie et d'expérience, même parfois spirituelle d'une certaine manière. Voilà, donc la rencontre avec Cécile a été très belle parce que c'est vraiment joué cette notion d'écotone, en particulier grâce au chantier participatif dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour cette raison-là qu'elle est venue. Elle avait besoin de retrouver le contact avec la terre, de pouvoir travailler de ses mains, aider au jardin, aider à fabriquer des murs. Voilà. Et en fait, au fil de ces rencontres, de ces échanges, dans ces zones écotones et dans ces activités écotones, dans lesquelles à la fois des sœurs vont participer, d'autres vont participer, et où tout le monde va pouvoir se rencontrer et s'enrichir mutuellement, il se joue des échanges, des rencontres, des discussions complètement inattendues. Aujourd'hui, Cécile est déjà revenue plusieurs fois à l'abbaye depuis cet été. Elle commence un chemin spirituel. Elle n'a pas encore vraiment rencontré le Christ. Elle prie elle-même pour avoir la grâce de la foi. Ce qui est un bel exemple pour nous qui l'avons, de nous dire, mais est-ce que je prie suffisamment pour que le Seigneur continue à approfondir en moi cette grâce de la foi? Voilà. Et donc, c'est un exemple, mais je pourrais en citer bien d'autres. Et je pense que aussi bien Emmanuel qu'Edouard pourraient aussi donner des témoignages dans le même style.
Alors, c'est peut-être ce qu'on va continuer, enfin, ce que je vous propose de continuer à faire pour la fin de la table ronde. J'ai en tête un prêtre du diocèse de Pamiers qui est, on va dire, un peu rentre-dedans et qui, je trouve, quand même m'a souvent fait cette interpellation. Il dit vouloir évangéliser, c'est une chose, aller à la rencontre, c'en est une autre, rentrer réellement en amitié avec des gens très différents, c'est un pas radicalement différent. Et lui, maintenant, c'est ce qu'il essaye de vivre dans ce diocèse, l'Ariège, qui, pour le coup, est très engagé dans les questions écologiques, avec beaucoup de chercheurs de sens, de Dieu, qu'il est trop facile de caricaturer, parce qu'il y a vraiment des gens extraordinaires. Emmanuel, qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, de votre expérience, se connaître, essayer de vivre ensemble, avoir le désir de partager un peu nos trésors de vie respectives? Est-ce que l'amitié... c'est si facile que ça dans votre écolieu? Voilà, est-ce que ça vous parle un peu ce que je viens de dire en citant ce prêtre?
Ben c'est sûr que moi, les personnes que je citais, mes expériences de partage, c'est des personnes avec qui je vis au quotidien, avec qui on ne partage pas la même maison, mais un lieu et énormément de décisions finalement, dans un mode de gouvernance qui est très horizontal. Et donc ça nous oblige de fait... À s'accepter les uns les autres plutôt que rejeter nos difficultés mutuelles, parce qu'en fait c'est le seul moyen de fonctionner. Et donc dans ce contexte c'est facilité parce qu'effectivement chacun s'ouvre de fait, sinon le partage ne se fait pas. Et j'entends un peu ce qui était dit précédemment, c'est que évidemment, de vouloir convertir en étant sûr de soi et en proclamant la bonne parole, eh bien sans l'ouverture de savoir ce que vivent ces personnes-là et la beauté de ce qu'ils font au quotidien, eh bien ça ne peut pas marcher, à mon avis. Et donc, effectivement, nous, dans ce contexte-là, on est aidés par ce modèle-là de s'accueillir comme on est dans nos difficultés, dans nos beautés. Quoi.
Jusqu'à se lier d'amitié, vous diriez, ou pas?
Alors, absolument. C'est une amitié qui est en fait qui est partagée, c'est-à-dire... C'est pas nécessairement des gens vers qui on serait allé spontanément, comme un beau-frère ou une belle-sœur, par exemple, mais dans lequel on ressent un lien qui est plus de fraternel, en fait. Voilà, donc c'est à la fois très intense et à la fois surprenant, parce qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles on pourrait penser qu'on n'est pas réconciliable. Voilà.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Edouard, peut-être, sur ce sujet de l'amitié, en toute simplicité?
En fait, là, ça me faisait penser à notre mariage, où en fait, on avait choisi de faire prendre le temps pendant 3 jours de préparer les choses nous-mêmes pour vivre cette écologie intégrale au cours de notre mariage. Et donc, c'est un projet qui avait assez interpellé nos amis d'enfance, nos collègues et tout ça. Donc, il y en a plusieurs qui sont venus, qui ont joué le jeu. Et voilà, et ce qu'on leur avait pas dit, c'est qu'il y avait aussi la messe tous les jours, des offices, une veillée de prière. Et en fait, ils sont venus, du coup, ils étaient curieux. Et je pense pour beaucoup, ça leur a donné une très bonne image de l'Église, mais pour moi en particulier, voilà, qui a été complètement retourné pour la vie de prière et qui était déjà baptisé, mais il avait laissé ça derrière lui et enfin, qui est revenu au Christ. Quoi, donc c'est par cette amitié et puis toujours en se faisant attirer par l'écologie au départ. Ouais.
Sœur-Anne, qu'est-ce que vous diriez sur le... Quand on est monial comme vous, on imagine le premier, entre guillemets, le premier but de votre vie, c'est pas forcément de se lier d'amitié avec 50 personnes, mais ça vous parle? C'est quelque chose dont vous avez parlé en communauté pendant tout le temps d'élaboration du projet? Il s'agit d'aller vraiment jusqu'à rentrer en amitié avec des gens très différents, et est-ce que c'est ce que vous vivez déjà?
Alors, nous, évidemment, on est un lieu dans lequel beaucoup de gens passent. Alors, il y a des personnes qui viennent régulièrement, qui deviennent des amis de la communauté. Bien sûr, il y a déjà nos amis, j'ai envie de dire, d'avant notre entrée au monastère, qui continuent à venir nous voir, des gens qui ensuite viennent, qu'on rencontre à l'hôtellerie, avec lesquels on échange beaucoup. Il y a un grand besoin d'écoute, une écoute authentique qui fait qu'on se sent vraiment écouté par la personne en face. Elle marche que dans la mesure où l'un et l'autre ouvrent leur cœur, pas seulement celui qui va se confier, mais aussi celui qui vient écouter, qui donne son temps, qui voilà. Donc ça, je pense que c'est un point qui me semble tout à fait juste. Après, il y a aussi des personnes qui viennent brièvement, et dans nos vies, il y a beaucoup de gens que nous rencontrons brièvement. Est-ce qu'avec ces personnes-là, nous sommes appelés à vivre une amitié ? Une amitié, nécessairement, elle va s'inscrire dans le temps, dans la durée, elle se construit. Mais en même temps, notre amitié avec le Christ, dans la mesure où elle est profonde et authentique, elle nous permet d'accueillir de manière, j'ai envie de dire, très rapide, à une vraie profondeur spirituelle, les personnes que nous rencontrons. Et il me semble qu'à partir du moment où nous entrons dans cette relation avec les autres, Saint Benoît nous dit dans la règle que nous suivons, hein, accueillir les autres comme le Christ, vraiment accueillir tous ceux qui viennent à nous comme le Christ. Donc à partir de ce moment-là, c'est mon amitié avec le Christ que je vais déployer dans ma relation avec chacun. Et donc que je vais pouvoir nourrir d'une amitié plus grande, d'une amitié transcendante, même si ça pourra être bref, ça pourra être dans une modalité particulière. Donc ça, je pense que c'est une réalité qui touche et qui concerne tout à fait nos vies monastiques et nos vies quotidiennes. Évidemment, on ne va pas vivre une amitié avec la caissière de la grande surface qu'on va croiser deux minutes au moment de faire nos courses, mais il n'empêche que dans une relation authentique avec la personne, quelle que soit et quelle que soit la durée de la rencontre, il se joue quelque chose de ce niveau-là qui permet une rencontre et un témoignage très fort. Et là, il me semble juste, je pense qu'il y a un point très important dans tout ce que nous avons évoqué qui me semble très, très, très clair à avoir, c'est qu'il faut que pour que notre témoignage soit authentique vis-à-vis de ces personnes, que nous assumions pleinement et sereinement notre foi et notre identité chrétienne. Ça ne gênera pas du tout nos interlocuteurs, et je crois que ça, c'est une réalité qui a changé au cours, je dirais, des 10-15 dernières années. On est face à des générations qui maintenant se sont séparées de Dieu, et la société assume parfaitement qu'on puisse être séparé de Dieu. Il n'y a plus de complexe sur cette question. C'est plus un complexe maintenant de ne pas être séparé de lui, parce que là, on n'est pas comme tout le monde. On a l'air d'être des australopithèques. Et en fait, moi, je vois le fait de porter un habit et d'être monial, il n'y a pas d'équivoque sur la question. Mais je pense que c'est valable aussi pour d'autres. D'assumer sa foi pleinement va permettre cette relation d'amitié authentique bien plus que si on se cache. Par contre, on assume cette foi tout en respectant l'autre, en l'écoutant, et donc ça va permettre un échange à une profondeur qui justement va pouvoir bien plus rapidement et bien plus efficacement être une amitié et un témoignage. Et ensuite, c'est notre cohérence de vie et en particulier notre joie qui seront l'élément déterminant pour inviter nos interlocuteurs à faire un pas supplémentaire dans leur quête spirituelle.
Eh ben, merci beaucoup. Je propose qu'on finisse un tout petit peu en avance parce que je sais que certains peuvent après partir pour les ateliers. Voilà, vous pouvez les applaudir. Je voulais juste proposer en conclusion une image, qui est une image que le pape François prend. Il dit à propos du monde d'après, et qui est entre autres ce monde écologique, perfusé d'écologie intégrale, il dit il faut bien savoir regarder les réalités du monde. Alors je ne reprends pas ces termes exactement, mais l'image est de lui, parce que contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, il y a comme un brouillard qui... Son image est la suivante, il dit il y a comme un brouillard qui est en train de passer sous une porte. Voilà, sachons voir ce brouillard et peut-être en être. Alors, les ateliers en fait sont à 10h30. Peut-être que certains du coup vont partir. Libre à vous de partir. Essayez de peut-être pas trop faire de bruit, quoi. Et le faire maintenant. Et puis après, je vous propose qu'on ait un temps de questions-réponses, qui sera peut-être un petit peu plus court que prévu, mais qui permettra à chacun d'être à l'heure. On va faire circuler un micro pour ceux qui veulent poser des questions. Bah, vous vous levez et puis vous essayez de dire en deux mots qui vous êtes. On va prendre une petite minute. pour laisser partir les premiers. Et après, on va faire ce jeu de questions-réponses.
Alors, Jean-Marc Moschetta, merci beaucoup pour cet excellent échange. J'ai été très touché par une phrase d'Emmanuel Birloise qui a dit ceci. Oui, Emmanuel Birloise a dit une phrase qui m'a particulièrement touché. Ce qui nous manquait, a-t-il dit à un certain moment en évoquant son propre parcours, hein, ce que vous avez dit, ce qui nous manquait, c'était l'espérance. Et ceci me paraît important face à une situation qui parfois suscite un certain désespoir. C'était même l'introduction de cette table ronde. Et j'ai beaucoup aimé cette affirmation parce qu'elle faisait écho à la phrase qui a été rappelée en introduction par Emmanuel Pella. Tout est caresse de Dieu. Est-ce que vous pourriez, vous qui vivez dans le monde rural, dans cette activité d'éleveur, dans cette activité d'exploitant agricole, au fond, qui est la vôtre, nous dire quel est votre regard sur la nature? Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de regarder la nature grâce à cette espérance qui est la vôtre, cette espérance chrétienne?
Emmanuel, on va commencer par vous.
Okay. Eh bien, je dirais que c'est un émerveillement du quotidien, c'est sur des petites choses en fait. C'est aussi se confronter à la difficulté. Je parlais de vulnérabilité tout à l'heure. Effectivement, par rapport, on le ressent aussi dans notre activité, le dérèglement climatique notamment, et puis des fois la difficulté, parce que notamment on parlait sur la partie agricole, mais nous on est autonome en eau et en électricité, par les panneaux et la récupération d'eau de pluie, et ben, les sécheresses, ça nous impacte aussi, nous, dans notre capacité à pouvoir utiliser de l'eau au robinet. Voilà. Et donc on est en permanence confronté à des difficultés, mais à la fois aussi son pendant d'émerveillement au quotidien. Et alors, voilà, pour répondre à cette partie de la question...
Peut-être je peux prolonger, parce que je connais un tout petit peu Jean-Marc Moschetta. Ce que Jean-Marc Moschetta, donc, qui par ailleurs est théologien, m'avait rappelé une fois, c'est que cette encyclique en fait, a quelque part coulé dans le marbre, dans la doctrine de l'Église, qui est qu'on trouve Dieu... on va dire dans toute la liturgie, la prière de l'Église, etc. On trouve Dieu dans l'autre, mais on trouve Dieu aussi dans la création. Voilà. Ça faisait partie d'une tradition franciscaine. Maintenant, ça fait partie, on va dire, de la pensée de l'Église. Est-ce que vous avez l'impression que cette caresse de Dieu, vous l'entrevoyez, ça fait partie de votre quotidien? Qu'est-ce qui a changé un peu dans votre rapport à la création, si je dois compléter son interrogation?
Eh ben, oui, alors... effectivement, c'est le fait de rendre grâce au quotidien pour ce qui me nourrit, autant physiquement que psychologiquement et intellectuellement. Et c'est comme ça que moi je me suis converti. C'est qu'effectivement, c'était ce rapport-là et tout de suite. Mystique et effectivement interpelle, nous prend dans la chair, voilà, mais dans des choses très simples du quotidien. Je sais pas comment dire.
Un exemple du quotidien serait quoi? C'est quand vous allez chercher le lait de chèvre le matin, ou c'est...
Oui, les beautés d'une naissance, la difficulté d'un décès chez nos animaux, le paysage qui est là en ce moment en automne, cette brume sur les montagnes, dans nos coteaux, etc. C'est tout, c'est en permanence, ouais, j'ai du mal.
Soren ou Emmanuel, comme vous voulez. Edouard, pardon, ça vous parle? Qu'est-ce que vous pourriez prendre comme exemple? Est-ce qu'il y a, au fur et à mesure, quelque chose qui se transforme dans votre rapport à la création?
Moi, je trouve qu'il y a une chose qui est très intéressante aussi par rapport même à ce qu'on disait, qui peut avoir un côté un peu désespérant au départ, quand on parle de ces catastrophes qui arrivent, etc., enfin, qui sont là. Je voudrais réagir sur deux petits points rapidement par rapport à ça. Le premier, c'est de se dire, ne nous trompons pas, elle passe, la figure de ce monde. Le Seigneur nous le dit dans l'Écriture. Donc, j'ai envie de dire, notre monde, il est normal, d'une certaine manière, que ses ressources s'épuisent. Il n'est pas inépuisable. Il va disparaître, comme chacun de nous. Il y a un jour où nous sommes nés et un jour où nous mourrons. La Terre, elle a été créée et un jour, elle disparaîtra. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons de la vie qui nous est confiée pendant ce temps-là et qu'est-ce que nous faisons de la nature ? Donc là, j'ai envie de dire, il y a une vraie réflexion à mener derrière ça aussi, qui me semble à bien garder en tête et à bien ajuster dans notre rapport. Ce qui ne va pas, c'est le gaspillage. Ce qui ne va pas, c'est le temps perdu. Ce qui ne va pas, c'est la destruction. Mais pas une saine et juste utilisation des ressources que le Seigneur nous donne. Et on voit en revanche que le Seigneur est créateur et qu'il continue à créer le monde. Moi, je suis certaine que nous trouverons toujours la capacité dans la nature de trouver de quoi nous nourrir, de quoi, parce que à condition de vivre cette conversion, ce sens du partage, etc. Mais moi, ce qui m'émerveille aujourd'hui, c'est de voir la capacité de la nature et donc cette création permanente du Seigneur, cette capacité de la nature à se guérir elle-même. Regardez un arbre sur lequel vous donnez malencontreusement un coup de faux ou lorsque vous le travaillez, il va cicatriser, il va réparer. Peut-être qu'il faudra le soigner, mais voilà. Et de la même manière, on voit des sols qui pouvaient être très dénaturés par une utilisation trop intensive. À partir du moment où on les retravaille correctement, où nous-mêmes nous participons dans la manière de les travailler à cette caresse de Dieu, eh bien on voit des merveilles extrêmement rapides. De résurrection d'une certaine façon. Donc je pense que le Seigneur, c'est comme dans nos propres vies, on fait un petit pas et lui, il donne des proportions incroyables à nos efforts. Ce sera la même chose vis-à-vis de notre terre, mais à nous de faire quand même ce vrai petit pas. Et ensuite, elle va nous surprendre. Mais l'urgent, c'est de commencer à faire ce pas.
On va prendre une autre question. C'est pareil, si vous pouvez venir devant, parce qu'en fait, sinon, on ne vous entend pas bien. Donc vous vous levez.
Oui, bonjour et merci pour ces échanges, merci de vos contributions. Moi j'ai une question pratique envers Emmanuel. Je suis assez interpellé par ce que vous faites. Ma question est très pratique. Est-ce qu'au sein de votre éco-village, vous avez l'occasion, au-delà des aspects pratiques de fonctionnement au quotidien, est-ce que vous avez l'occasion de réfléchir, de méditer un petit peu sur le pourquoi vous êtes là, voire éventuellement de parler de Dieu, hein. Et est-ce que vous avez aussi, je dirais pas le souci, mais la volonté de faire des émules et de rayonner vers l'extérieur?
Emmanuel, vas-y, tu réponds en ton nom propre, bien sûr, hein, et bien sûr. T'expliques ce que vous vivez.
Nous, on essaye d'avoir une vie de chrétien la plus intense possible avec nos moyens, nos possibilités. Et déjà, ça, je pense que ça rayonne d'une façon ou d'une autre. Ensuite, je commence, bon, j'ai un peu de pudeur aussi, hein, déjà parce que c'est récent, que j'ai besoin de aussi construire. Mais je commence à en parler, effectivement, à mes amis de l'éco-village, à des moments qui sont dédiés à ça, à ce partage, notamment on se partage tous qu'est-ce qui nous fait vivre, qu'est-ce qui est clé dans notre vie, parce qu'on sait qu'en fait c'est une clé de lecture très importante entre nous pour se comprendre, se rejoindre. Et donc à cette occasion-là, bien sûr, je parle de ma foi, de mon parcours.
Est-ce qu'il y a des temps dédiés à parler autre chose que des aspects pratiques? C'est aussi ce que j'entendais un petit peu.
Clairement, c'est ça. Par exemple, effectivement, à l'entrée de chaque nouveau résident, il y a une réunion qui est là pour se partager. Nous, on se le repartage à chaque fois, mais aussi avec la nouvelle personne qui arrive, ce qui nous fait vivre, ce qui est clé dans notre vie, ce qui en gros est vraiment fondamental, qui va déterminer un peu toutes nos décisions sans qu'on ait vraiment conscience. Et donc ça, c'est une démarche qu'on a faite récemment. Donc on va de plus en plus ça, mais au quotidien, quand on s'exprime sans se couper, et donc forcément, dans toutes les décisions qu'on va prendre, il y a de ça. Ils le savent, même si ça n'est pas dit. Il y a quelque part, Et dans nos actes, quelque part, des fois, ça interroge. Ah, vous faites ça. Ah oui, vous êtes chrétien. et ça interroge, ça suscite beaucoup de questions, d'interrogations, et il y a un pont qui se fait parce que à la fois on est très proche dans notre quotidien, et à la fois il y a ce truc un peu étonnant qui est notre spécificité et qui intrigue fort et souvent pour eux, je pense, qui explique aussi des fois notre capacité à faire certaines choses qu'ils ne se sentent pas capables de faire, par exemple.
Il y avait une autre question, c'était aussi en quoi cet écolieu est ouvert sur l'extérieur. Est-ce que ça fait partie, on va dire, de l'ADN du projet, ou est-ce que vous essayez de vivre comme les peuples premiers au milieu des arbres et qu'on fiche la paix?
On n'a pas du tout de volonté d'autarcie, pas du tout. On est vraiment ouvert vers l'extérieur. Bon, par contre, on n'a pas une ouverture active. En fait, passivement, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Et par là, on a aussi beaucoup de rencontres de gens en chemin ou des chrétiens convaincus qui aussi nous nourrissent à nous personnellement et les autres. Et récemment, j'ai deux exemples de convertis qui sont venus avec qui on a eu un échange très très fort. Et voilà. Donc oui, on est ouvert vers l'extérieur.
On va prendre une autre question. C'est pareil, si vous pouvez avoir la sympathie de venir devant. Allez, honneur aux dames, on va vous prendre vous, et puis si on a le temps, on prendra monsieur derrière. Une question donc. Hein.
Une question, mais plus qu'une question. Si vous saviez à quel point je me réjouis de vous entendre, d'entendre des chrétiens s'intéresser à l'écologie et monter des projets concrets, c'est une joie immense pour moi. Pourquoi ? Mes parents étaient agriculteurs, ils n'aimaient pas ce métier. Ils n'ont pas su m'en transmettre l'amour. Je me retrouve aujourd'hui, nous nous retrouvons avec mon mari, qui n'a pas fait ce métier, avec une ferme. Nos enfants, un peu marginaux, sont revenus. Notre fille cultive des plantes médicinales. Il y a 10 ans, on avait 2 hectares constructibles. J'y faisais le projet d'un village écologique. Mais à l'époque, je ne connaissais pas de chrétiens. Je connaissais que des marginaux. Et mon mari, qui venait de prendre la retraite, ça lui a fait peur. J'ai abandonné ce projet. Mais aujourd'hui, donc, nos enfants sont là. Nous avons une ferme, 150 hectares dans l'Écosse du Quercy. Et mon rêve, mon souhait, c'est que le Seigneur envoie vers nous et envers nos enfants des chrétiens solides qui, eux, n'auraient pas l'outil d'une ferme et seraient heureux de monter un projet avec eux.
Eh ben merci de ce témoignage, même si ce n'est pas une question.
Voilà.
À ce sujet, vous trouverez de multiples lectures pour essayer de comprendre la crise écologique, mais il y en a un qui m'a semblé intéressant à citer dans cette table ronde. C'est, je ne retrouve plus le titre, mais je crois que c'est Laudato Si, 5 ans après. C'est de Dominique Lang, qui est religieux assomptionniste, qui travaille pour le groupe Bayard, c'est aux éditions Bayard. Et il a fait une espèce d'enquête, c'est en partie son travail, il est journaliste pour le groupe Bayard. Donc il essaie de voir un peu, on va dire, l'état de la transition de l'Église en France. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il va dans de multiples lieux, chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs. Donc ça, voilà, on voit que ça bouge et que des désirs comme ça ou des aventures comme ça, il y en a d'autres. Alors, on a encore le temps d'une question, si quelqu'un... voilà. Il n'y a pas de moins de 40 ans ou moins de 35 ans frustrés dans l'Assemblée, histoire qu'on entende un peu un jeune quand même. Non, bon. Ah si, il y en a une. Bon, alors on va faire 2 questions en une, comme ça on entendra peut-être la jeunesse. Monsieur, on vous écoute.
Bonjour, merci pour vos interventions.
Une question, si c'est possible.
La question, c'est quelle est la relation entre la ruralité et l'urbanisme ? Il y a 80% des habitants, au moins dans notre pays, qui vivent en milieu urbain. Et on n'a parlé que du milieu rural et de l'agriculture. Il n'y a pas que des agriculteurs sur terre. C'est très bien, c'est indispensable, mais ça pose des tas de problèmes et vous ne les avez absolument pas abordés pour le moment.
Alors, on va essayer d'y répondre. J'apporterai juste une corrective parce qu'il se trouve que moi j'ai animé la table ronde hier. Pardon, je prends beaucoup la parole, mais voilà, c'est un défaut peut-être professionnel. Mais hier, j'ai animé la table ronde sur la ruralité. Selon l'INSEE, en France, c'est 90% du territoire qui est rural. Donc, c'est-à-dire commune très peu dense, moyennement dense et autour de pôles d'attraction. Et c'est 33% de la population française qui vit quand même dans le monde rural. Donc, ce n'est pas si marginal que ça en France. Peut-être on peut finir avec vous, Edouard, parce que ce qu'on entend derrière, c'est que bon, c'est bien joli, tout le monde ne peut pas habiter dans le Gers à Boulogne ou avoir la chance de se lever en contemplant les Pyrénées, et puis on n'est pas tous appelés à vivre de la terre. Pour autant, cette grande aventure et cet émerveillement dans la création, cette transition à vivre, tout ce qu'on a évoqué ce matin, tout le monde doit le vivre, y compris en ville. C'est certainement un peu une pique qu'on vous lance. Comment est-ce que vous en dépatouillez quand on vous la lance ?
Ben, si on regarde d'un point de vue purement chiffré, donc, en fait, je pense que c'est plus facile d'avoir un faible bilan carbone en ville qu'à la campagne, puisque on n'a pas besoin d'avoir de voiture pour se déplacer, on peut être dans un appartement, donc être chauffé ensemble avec les voisins sans trop de perte de chaleur, contrairement à une maison, etc. Bon, ça c'est juste pour répondre à la pique. Mais sinon, c'est sûr qu'on a besoin quand même de ce lien à la nature, et enfin, ça je ne l'apprendrai à personne, mais donc il faut prendre le temps parfois d'aller se replonger dans la nature. L'écologie intégrale, c'est aussi de prendre le temps dans chacune des trois relations que j'ai nommées au début, donc Dieu, l'autre, la création, ouais, et moi-même aussi. Et donc d'aller prendre le temps de recontempler la création et d'avoir à nouveau cette caresse de Dieu et donc sortir de la ville de temps en temps.
Vous pouvez peut-être finir en parlant à la première personne, parce que vous êtes citadin. Comment est-ce que vous essayez de vivre ça, vous, dans votre immeuble, si vous êtes dans votre immeuble, avec votre environnement proche je sais pas.
Ouais. Déjà, il y a des actes personnels. Enfin, si on parle d'écologie, là. Enfin,
de rapport à la création, peut-être plutôt, ou
de rapport à la création.
De lien, on va dire, restauré avec, avec les autres.
Oui. Mais justement, en fait, les petits actes, c'est aussi ça qui va permettre d'interpeller l'autre et qui va nous demander pourquoi vous n'avez pas de voiture, et donc de lancer la relation et de partant de là d'arriver à l'annonce du Christ. Mais en tout cas, on prend le soin d'aller toquer aux portes de nos voisins, d'essayer de créer de la relation comme ça. On a habité pendant 2 ans à HLM dans l'idée de rencontrer aussi ces personnes-là qui habitent à 200 mètres de... Maintenant, on est à Sainte-Agne, on était en Palau avant. Donc les deux quartiers sont à moins d'un kilomètre, et pourtant, c'est des gens qu'on croise jamais parce qu'on n'a pas le même mode on n'a pas les mêmes métiers, pas les mêmes modes de déplacement, pas les mêmes activités, etc. Et donc, on a habité là-bas 2 ans. On allait toquer aux portes de nos voisins, les rencontrer, s'enrichir mutuellement, essayer de refaire des ponts dans une société un peu divisée.
En Palau, c'est donc un quartier qui est aux portes du centre-ville. Donc ça prouve
un quartier HLM de tout.
C'est une autre déclinaison, entre guillemets, de la révolution écologique. C'est ce qu'on entend dans ce que vous dites. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va essayer de finir à l'heure, et c'est l'heure. Merci à vous d'être venu participer à cette table ronde. Et puis, je pense qu'on peut applaudir nos invités une dernière fois.